Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Des clés pour grandir. Anne Merlot, bonjour.
Bonjour.
Troisième semaine avec vous dans cette émission bien spécifique pour tous les parents qui ont des adolescents. Alors au programme aujourd'hui, c'est un peu de votre histoire et de votre expérience. Vous êtes une grand-mère de 4 petits-enfants. Vous êtes maman de 5 grands-enfants, dont 2 enfants décédés. Vous nous avez partagé la semaine dernière que vous avez connu vous-même dans votre parcours de maman cette emprise un peu sur vos enfants, cette peur et de vouloir tout contrôler. Est-ce que ce n'est pas aussi le risque aujourd'hui avec les inquiétudes, les peurs, les addictions que les parents dans cette période de l'adolescence souhaitent tout contrôler et fliquer, permettez-moi du terme, leurs adolescents.
Voilà.
Alors votre témoignage peut-être pour aider aussi les parents qui vous écoutent.
Ah oui, je me suis rendu compte que avec mes enfants, moi, je suis devenue maman sans savoir ce que c'est qu'être une maman, comme tout le monde en fait. J'ai appris sur le tas, on apprend sur le tas. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte au fil des années que je ne savais pas aimer mes enfants et que j'étais donc dans l'obligation de demander au Seigneur comment aimer. Mes enfants étaient tous différents et comment les aimer. Et donc, je les ai éduqués comme j'ai pu et surtout, j'ai tout fait à leur place, tout le temps. J'étais un peu perfectionniste, il fallait que la chambre soit rangée, que le linge soit rangé, que les choses aillent bien, un peu légaliste, je leur apprenais des lois familiales, etc. On ne se couche pas sans avoir rangé la chambre, etc., sans avoir fait son cartable, rien. J'étais assez ferme sur ces sujets-là. Et finalement, je faisais tout à leur place. Ils se levaient, vite je faisais leur lit, vite je pliais leurs affaires, et eux, ils n'ont pas appris à le faire. Je faisais à leur place. Je faisais la cuisine. À aucun moment, je leur ai vraiment appris à faire la cuisine, à le faire avec moi, parce que ça aurait pris du temps. Ça m'aurait demandé un investissement, d'être avec eux, de faire les choses avec eux. Et un jour où je suis allée chez ma fille, dont les enfants étaient tout petits, j'arrive chez elle, elle savait que j'allais venir, elle était assise par terre, sur un sol pas très bien balayé, avec la vaisselle dans l'évier, elle était en train de jouer avec ses enfants. Et je me suis dit, oh, mais elle fait n'importe quoi! Il faudrait quand même qu'elle frange d'abord sa maison avant de faire ça. Et d'un coup, ça m'a touchée, je me suis dit, mais non, elle a raison, c'est moi qui ai tort. Moi, je passais mon temps, quand les enfants me disaient « Maman, viens voir », je disais « Attends, je finis ma vaisselle. Attends, j'ai encore ça à faire. » Et puis, quand j'arrivais le soir dans leur chambre, comment, c'est pas rangé? Et le doux moment du coucher, où c'est l'occasion pour se parler, pour se confier, ça devenait un pugilat. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui en sont là aussi, avec les reproches qui viennent à ce moment-là, où tout ce qu'on a vécu dans la journée, ça ressort. Alors, au lieu d'être un moment de bénédiction, de tendresse, d'amour, de compréhension, de confidence, ben ça devient une bataille. C'est comme les repas à table. Alors, au lieu d'être un moment de vraiment de communion, où tout le monde peut s'exprimer à son tour, exprimer ce qu'il vit et partager, où les parents partagent ce qu'ils vivent aussi, font comprendre aux enfants les difficultés qui sont les leurs aussi, dans leur travail, etc. Sans leur dire « moi je travaille, bon là ». Faire partager les choses où on partage. Trop souvent, la table est un endroit où on se dispute, où on fait des reproches aux enfants. Et on leur dit leurs défauts, devant les autres d'ailleurs. On peut être très vexant, très blessant, sans s'en rendre compte. Ce sont des choses que j'ai faites et que j'ai été obligée de me rendre compte que c'était des erreurs. Mais c'est parce que moi, dans ma propre famille, on faisait comme ça. Et on reproduit comme ça de génération en génération, au lieu d'apprendre directement de Dieu comment on se comporte avec nos enfants. Donc j'étais dans cette peur continuelle qu'ils ne fassent pas les choses comme il faut, en quelque sorte même leur avenir m'échappe. Quand un de mes fils est venu habiter sur Toulouse, il fallait lui trouver un appartement, tout ça. Lui, il nous disait « je voudrais être dans tel endroit ». Ben nous, on a choisi pour lui. On a pris des décisions pour lui. Et il avait 18 ans, quoi, ou 19 ans, je ne sais plus. Et on s'est rendu compte au cours de l'année qu'il était dans un endroit où il était vraiment, vraiment pas bien. Ce n'était pas l'endroit où il fallait qu'il soit. Et on aurait dû l'écouter, lui. Mais on a choisi pour lui, parce que c'était nous qui décidions les choses, sans lui faire confiance. Et là, chaque fois, petit à petit, on a dû apprendre. Encore maintenant, j'ai ce regret. Je dis, mais il a passé une année horrible à cause de nous.
Même encore aujourd'hui.
Et même encore, j'y pense.
Que de la culpabilité, ça se manifeste.
C'est un regret. Un regret. La culpabilité, ça, j'ai réussi à le gérer. Parce que je me remets au Seigneur. Je sais que lui seul est capable de réparer nos erreurs. Il a ce pouvoir de faire tout concourir à notre plus grand bien. Il répare nos erreurs. Et ça, il faut le croire absolument.
Alors, permettez-moi, mais quand vous relisez, merci de votre témoignage, Anne Merlot. Aujourd'hui, vous êtes grand-mère.
Oui.
Merci de nous partager un peu cette étape aussi de vos propres enfants, dans votre propre rôle de maman, qui révèle aussi ce contrôle que vous aviez.
Oui.
Qui dit contrôle, qui dit perfectionnisme. Et c'était votre cas à l'époque, vous le confessez sur les ondes et cette émission des clés pour grandir, pour aider certainement, de par votre expérience et votre témoignage, d'autres parents qui seraient aussi dans ce perfectionnisme ce contrôle et cette emprise sur leurs enfants. Comment concrètement en êtes-vous sorti de ce contrôle, hyper-contrôle ?
Alors, ce qui est curieux, c'est que ce qui m'en a fait sortir, c'est la mort de mes enfants.
La mort de vos enfants.
La mort, parce qu'ils m'ont échappé. Je ne pouvais plus les contrôler et je ne pouvais plus avoir sur eux cette emprise de « ils ont besoin de moi ». Hein, c'est pour les parents, c'est ça qui est en eux, ils ont besoin de moi. Et nous avons besoin que nos enfants aient besoin de nous. Et même ceux qui sont restés encore plus grands, pour nous, c'était important de penser, ils ont besoin de nous. Il faut qu'on les aide. Il faut qu'on leur mâche le boulot, quoi. Il faut qu'on enlève les pierres du chemin, en quelque sorte, pour pas qu'ils se blessent et se fassent mal. Mais quand on a été perfectionniste, qu'on a essayé de les protéger, et puis qu'il y a l'accident de voiture, on n'a pas pu l'empêcher. Et là, ce contrôle nous échappe, on est obligé de les lâcher, de renoncer à ce rôle de parent qui fait que nous pensons être indispensables à nos enfants. Nous ne sommes pas indispensables, absolument pas indispensables, il faut qu'on en ait conscience.
Qu'est-ce que ça dit très précisément ? Et merci de votre témoignage, Anne Merlot, qui est important certainement pour bon nombre de parents. Dans ce contrôle, dans ce perfectionnisme, dans cette possession de l'enfant, qu'est-ce que ça dit de la blessure du papa ou de la maman ?
Et voilà.
Et oui, c'est surtout ce travail personnel.
Que chacun doit faire.
Donc il y a l'histoire de la famille, on imagine bien.
Oui.
Mais qu'est-ce qui se vit ? Qu'est-ce que ça dit ?
Quand on a un enfant, on est confronté à soi-même et à nos propres limites. Et à nos blessures, forcément. Nos blessures d'enfance, le fait qu'on n'a pas été aimé comme on aurait voulu être aimé, nos blessures d'abandon, nos blessures de rejet qui ressortent tout le temps. Et cette tendance donc continuelle de parents de prendre l'enfant pour combler nous-mêmes le vide. Hein. Et quelquefois dans les couples, dans les familles, où je parle à pas mal de femmes que je connais qui ont des difficultés avec leur époux, où elles sont déçues, hein, l'amour n'est pas ce qu'elles pensaient que ça serait. Il y a la vision romantique du mariage qui s'écroule et on est confronté à une réalité de difficulté à s'aimer, à s'entendre, etc. Alors il y a un vide intérieur qui se crée. Alors au lieu de combler ce vide et cette solitude du parent, au lieu de la combler par Dieu, faire de cette solitude intérieure quelque chose de fécond, au lieu de faire ça, on prend l'enfant pour combler la solitude. Et on le prend en otage pour qu'il comble notre solitude. On lui demande de nous aimer inconditionnellement et de venir nous combler dans notre soif affective, dans notre besoin affectif. Et ça, ça tue l'enfant. Et on n'en a pas toujours conscience.
Et ça tue le parent lui-même.
En même temps. Parce que ça empêche le parent de... Enfin, traiter son problème de solitude et de se confronter à lui-même et d'apprendre à aimer sa propre vie et que la solitude n'est pas une catastrophe. D'ailleurs, on a tellement peur de notre solitude qu'on a peur de la solitude de nos ados parce qu'ils manifestent ce sentiment de solitude. Et en allant dans les conduites d'addiction, c'est pour combler cette solitude et l'angoisse de la solitude. hein, qui est générée par la situation de solitude. Il y a une angoisse très forte, il faut apaiser cette angoisse à tout prix.
Permettez-moi, mais cette solitude est indispensable, elle est nécessaire.
Indispensable.
Donc, le parent doit aider à traverser cette solitude pour que l'enfant ado devienne un jour un homme ou une femme adulte et mature.
Oui, c'est un peu comme ça.
C'est ce que le parent doit comprendre.
Et c'est un peu comme ça que l'addiction aux écrans peut se mettre en place. Parce qu'un enfant qui est un enfant dans l'enfance qui dit « je m'ennuie ». On entend des enfants sans arrêt dire « Maman, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. »
Ah oui, là, je vous confirme.
Et la maman, elle dit « Je peux regarder une vidéo, bon, ben d'accord. » Ben non, tu t'ennuies, c'est pas grave. Invente quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Eh ben tant pis. Et face à ce refus du parent, l'enfant est dans l'obligation d'inventer quelque chose pour se distraire. Et que ce ne soit pas un écran pour
Donc
autant.
Donc il peut être créatif.
Voilà. Et ça, les parents n'ont pas le courage.
Et il peut grandir, pour le coup.
De le faire. Il y a un refus, parce qu'on ne veut pas faire souffrir l'enfant. Mais l'enfant, il faut bien qu'il souffre un moment ou un autre.
Et on ne veut pas être rejeté en tant que parent.
Exactement.
C'est ça. C'est ce que
cette peur de pas être
les
aimé.
Parents doivent peut-être entendre.
Et ils ne supportent pas que les adolescents les détestent. Parce que les parents sont là pour dire à l'adolescent « Non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça. » Et c'est qu'une somme d'interdiction, quoi. Parce qu'on a trop peur pour eux. Alors, les adolescents peuvent le comprendre, mais il faut que les parents n'aient plus peur. Enfin, on ne peut pas ne pas avoir peur. Mais fassent confiance. Apprendre à faire confiance. Et quitte à ce que l'enfant se brûle les ailes, c'est ça qui est terrible. On voudrait tellement les préserver. On ne veut pas qu'ils revivent ce qu'on a vécu soi-même. Et on veut leur éviter. Mais nous ne sommes pas Dieu.
Eh oui, eh oui. Mmh. Et nous ne prenons pas la place de Dieu.
Voilà.
Même si on est parent.
Mais on le fait.
Et on le fait.
On le fait tout le temps. La surprotection, c'est se prendre pour Dieu.
Eh oui. On n'est pas des super-héros.
Oui, on veut éviter le malheur à nos enfants, mais on ne peut pas.
Alors, Anne Merleau, je vous remercie de votre intervention du jour dans Des clés pour grandir pour tous nos parents, auditeurs de ce rendez-vous bien spécifique pour cette période particulière, mais une belle période de la vie, la période de l'adolescence. Oui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Et merci.
D'accord.